Jean-Henri Fabre, une ascension au Mont Ventoux. Par un isolement qui lui laisse, sur toutes les faces, exposition libre à l'influence des agents atmosphériques, par son élévation qui en fait le point culminant de la France en deçà des frontières soit des Alpes, soit des Pyrénées, le mont Pelé de la Provence, le Mont Ventoux, se prête avec une remarquable netteté aux études de la distribution des espèces végétales suivant le climat. À la base, prospère le frileux olivier, et cette multitude de petites plantes demi-ligneuses, telles que le thym, dont les aromatiques senteurs réclament le soleil des régions méditerranéennes. Au sommet, couvert de neige au moins la moitié de l'année, le sol se couvre d'une flore boréale, empruntée en partie aux plages des terres arctiques. Une demi-journée de déplacement suivant la verticale fait passer sous les regards la succession des principaux types végétaux que l'on rencontrerait en un long voyage du sud au nord, suivant le même méridien. Au départ, vos pieds foulent les touffes balsamiques du thym, qui forment tapis continu sur les croupes inférieures. Dans quelques heures, ils fouleront les sombres coussinets de la saxifrage à feuilles opposées, la première plante qui s'offre aux botanistes débarquant en juillet sur le rivage du Spitzberg. En bas, dans les haies, vous avez récolté les fleurs écarlates du grenadier, ami du ciel africain. Là-haut, vous récolterez un petit pavot velu qui abrite ses tiges sous une couverture de menus débris pierreux et déploie sa large corolle jaune dans les solitudes glacées du Groenland et du Cap Nord, comme sur les pentes terminales du Ventoux. De tels contrastes ont toujours saveur nouvelle. Aussi, 25 ascensions n'ont-elles pu encore amener en moi la satiété. En août 1865, j'entreprenais la 23e. Nous étions 8. 3 dont le mobile était la botanique, 5 alléchés par une course dans les montagnes et le panorama des hauteurs. Aucun de nos 5 compagnons étrangers à l'étude des plantes n'a depuis manifesté le désir de m'accompagner une seconde fois. C'est qu'en effet, l'expédition est rude, et la vue d'un lever de soleil ne dédommage pas des fatigues endurées. On ne saurait mieux comparer le Ventoux qu'à un tas de pierres concassées pour l'entretien des routes. Dresser brusquement le tas à 2 kilomètres de hauteur, donnez-lui une base proportionnée, jetez sur le blanc de sa roche calcaire la tache noire des forêts, et vous aurez une idée nette de l'ensemble de la montagne. Cet amoncellement de débris, tantôt petits éclats, tantôt quartiers énormes, s'élève dans la plaine sans pente préalable, sans gradins successifs, qui rendraient l'ascension moins pénible en la divisant par étapes. L'escalade, immédiatement, commence par des sentiers rocailleux, dont le meilleur ne vaut pas la surface d'un chemin récemment empierré, et se poursuit, toujours plus rude, jusqu'au sommet dont l'altitude mesure 1912 mètres. Frais gazon, guerre ruisselée, roches mousseuses, grandes ombres des arbres séculaires, toutes ces choses enfin qui donnent tant de charme aux autres montagnes ici sont inconnues et font place à une interminable couche de calcaire fragmentée par écailles qui fuit sous les pieds avec un cliquetis sec, presque métallique. Les cascades du Ventoux sont des ruissellements de pierrailles. Le bruissement des roches éboulées y remplace le murmure des eaux. Nous voici à Bédouin, tout au pied de la montagne. Les pourparlers avec le guide sont terminés. L'heure du départ est convenue. Les vivres sont discutés et se préparent. Essayons de dormir, car demain, il y aura une nuit blanche à passer sur la montagne. Dormir, voilà vraiment le difficile. Jamais je n'y suis parvenu, et la principale cause de fatigue est là. Je conseillerais donc à ceux de mes lecteurs qui se proposeraient une ascension botanique au Ventoux de ne pas se trouver à Bédouin un dimanche au soir. Ils éviteront le bruyant va-et-vient d'un café-auberge, les interminables conversations à haute voix, l'écho des carambolages dans la salle de billard, le tintement des verres, la chansonnette à préboire, les couplets nocturnes des passants, le beuglement des cuivres du bal voisin et autres tribulations inévitables en ce saint jour de désœuvrement et de liesse. Reposeront-ils mieux dans le courant de la semaine? Je le souhaite, mais n'en réponds pas. Pour mon compte, je n'ai pas fermé l'œil. Toute la nuit, le tournebroche rouillé, fonctionnant pour nos victuailles, a gémi sous ma chambre à coucher. Je n'étais séparé de la satanée machine que par une mince planche. Mais déjà, le ciel blanchit, un âne braie sous les fenêtres. C'est l'heure, levons-nous. Autant eût valu ne pas se coucher. Provisions de bouche et bagages chargés. Ya, hi, fait notre guide. Et nous voilà partis. Il est 4 heures du matin. En tête de la caravane marche Triboulet avec son mulet et son âne. Triboulet, le doyen des guides au Ventoux. Mes collègues en botanique scrutent du regard aux fraîches lueurs de l'aurore la végétation des bords du chemin. Les autres causent. Je suis la bande, un baromètre pendu à l'épaule, un carnet de notes et un crayon à la main. Mon baromètre, destiné à relever l'altitude des principales stations botaniques, ne tarde pas à devenir un prétexte d'accolade à la gourde de Rome. Dès qu'une plante remarquable est signalée, vite, un coup de baromètre, s'écrie l'un. Et nous nous empressons tous autour de la gourde, l'instrument de physique ne venant qu'après. La fraîcheur du matin et la marche nous font si bien apprécier ces coups de baromètre que le niveau du liquide tonique baisse encore plus rapidement que celui de la colonne mercurielle. Il me faut, dans l'intérêt de l'avenir, consulter moins fréquemment le tube de Torricelli. Peu à peu disparaissent la température devenant trop froide, l'olivier et le chêne vert d'abord, puis la vigne et l'amandier, puis encore le mûrier, le noyer, le chêne blanc. Le buis devient abondant. On entre dans une région monotone qui s'étend de la fin des cultures à la limite inférieure des hêtres et dont la végétation dominante est la sarriette des montagnes, connue ici sous le nom vulgaire de pebredase, poivre d'âne, à cause de l'âcre saveur de son menu feuillage imprégné d'huile essentielle. Certains petits fromages faisant partie de nos provisions sont poudrés de cette forte épice. Plus d'un déjà les entame en esprit. Plus d'un jette un regard d'affamé sur les sacoches aux vivres que porte le mulet. Avec notre rude et matinale gymnastique, l'appétit est venu. Mieux que l'appétit, une faim dévorante. Ce qu'Horace appelle l'atrantem stomacum. J'enseigne à mes collègues à tromper cette angoisse stomacale jusqu'à la prochaine halte. Je leur indique au milieu des pierrailles une petite oseille à feuilles en fer de flèche, le rumex scutatus. Et, prêchant moi-même d'exemple, j'en cueille une bouchée. On rit d'abord de ma proposition. Je laisse rire. Et bientôt je les vois tous occupés, à qui mieux, à la cueillette de la précieuse oseille. Tout en mâchant la scie de feuilles, on atteint les hêtres. D'abord larges buissons isolés, traînant à terre. Bientôt arbres nains, serrés l'un contre l'autre. Enfin troncs vigoureux, forêts épaisses et sombres, dont le sol est un chaos de blocs calcaires. Surchargés en hiver par le poids des neiges, battus toute l'année par les furieux coups d'haleine du mistral, beaucoup sont ébranchés, tordus dans des positions bizarres, ou même couchés à terre. Une heure et plus se passe à traverser la zone boisée qui, de loin, apparaît sur les flancs du Ventoux comme une ceinture noire. Voici que, de nouveau, les hêtres deviennent buissonnants et clairsemés. Nous avons atteint leur limite supérieure, et, au grand soulagement de tous, malgré les feuilles d'oseille, nous avons atteint aussi la halte choisie pour notre déjeuner. Nous sommes à la fontaine de la Grave, mince filet d'eau reçu au sortir du sol dans une série de longues auges en troncs de hêtres, où les bergers de la montagne viennent faire boire leurs troupeaux. La température de la source est de 7 degrés, fraîcheur inestimable pour nous qui sortons des fournaises caniculaires de la plaine. La nappe est étalée sur un charmant tapis de plantes alpines, parmi lesquelles brille la paronique à feuilles de serpolet, dont les larges et minces bractées ressemblent à des écailles d'argent. Les vivres sont tirés de leurs sacoches, les bouteilles exhumées de leurs couches de foin. Ici, les pièces de résistance, les gigots bourrés d'ail et les piles de pain. Là, les fades poulets, qui amuseront un moment les molaires quand sera apaisée la grosse faim. Non loin, à une place d'honneur, les fromages du Ventoux, épicés avec la sarriette des montagnes, les petits fromages au pebredase. Tout à côté, les saucissons d'Arles, dont la chair rose est marbrée de cubes de lard et de grains entiers de poivre. Par ici, en ce coin, les olives vertes, ruisselantes encore de saumure, et les olives assaisonnées d'huile. En cet autre, les melons de Cavaillon, les uns à chair blanche, les autres à chair orangée, car il y en a pour tous les goûts. En celui-ci, le pot aux anchois, qui font boire sec pour avoir du jarret. Enfin, les bouteilles au frais dans l'eau glacée de cette auge. N'oublions-nous rien? Si, nous oublions le maître dessert, l'oignon qui se mange cru avec du sel. Nos deux Parisiens, car il y en a deux parmi nous, mes confrères en botanique, sont d'abord un peu ébahis de ce menu par trop tonique. Ils seront les premiers tout à l'heure à se répandre en éloges. Tout y est, à table. Alors commence un de ces repas homériques qui font date en la vie. Les premières bouchées ont quelque chose de frénétique. Tranches de gigots et morceaux de pain se succèdent avec une rapidité alarmante. Chacun, sans communiquer aux autres ses appréhensions, jette un regard anxieux sur les victuailles et se dit « Si l'on y va de la sorte, en aurons-nous assez pour ce soir et demain ?» Cependant, la fringale s'apaise. On dévorait d'abord en silence, maintenant on mange et on cause. Les appréhensions pour le lendemain se calment aussi. On rend justice à l'ordonnateur du menu qui a prévu cette famélique consommation et tout disposé pour y parer dignement. C'est le tour d'apprécier les vivres en connaisseur. L'un fait l'éloge des olives, qu'il pique une à une de la pointe du couteau. Un second exalte le pot aux anchois tout en découpant sur son pain le petit poisson jauni d'ocre. Un troisième parle avec enthousiasme du saucisson. Tous, enfin, sont unanimes pour célébrer les fromages au pebredazé, pas plus grands que la paume de la main. Bref, pipes et cigares s'allument, et l'on s'étend sur l'herbe, le ventre au soleil. Après une heure de repos, debout, le temps presse, il faut se remettre en marche. Le guide avec les bagages s'en ira seul vers l'ouest, en longeant la lisière des bois où se trouve un sentier praticable aux bêtes de somme. Il nous attendra au jas ou bâtiment situé à la limite supérieure des hêtres, vers 1550 mètres d'altitude. Le jas est une grande hutte en pierre qui doit nous abriter la nuit, bêtes et gens. Quant à nous, poursuivons l'ascension et atteignons la crête, que nous suivrons pour gagner avec moins de peine la cime terminale. Du sommet, après le coucher du soleil, nous descendrons au jas où le guide sera depuis longtemps arrivé. Tel est le plan proposé et adopté. La crête est atteinte. Au sud se déroulent à perte de vue les pentes relativement douces que nous venons de gravir. Au nord, la scène est d'une grandiose sauvagerie. La montagne, tantôt coupée à pic, tantôt disposée en gradins d'une effrayante déclivité, n'est guère qu'un précipice d'un kilomètre et demi de hauteur. Toute pierre lancée ne s'arrête plus et bondit de chute en chute jusqu'au fond de la vallée où se distingue, comme un ruban, le lit de Toulourenc. Tandis que mes compagnons ébranlent des quartiers de roches et les font rouler dans l'abîme pour en suivre l'épouvantable dégringolade, je découvre, sous l'abri d'une large pierre plate, une vieille connaissance entomologique, l'ammophile hérissée, que j'avais toujours rencontrée isolée sur les berges des chemins de la plaine, tandis qu'ici, presque à la cime du Ventoux, je la trouve au nombre de quelques centaines d'individus groupés en tas sous le même abri. J'en étais à rechercher les causes de cette populeuse agglomération, lorsque le souffle du midi qui déjà nous avait inspiré dans la matinée quelques vagues craintes, amène soudainement un convoi de nuages se résolvant en pluie. Avant d'y avoir pris garde, nous sommes enveloppés d'une épaisse brume pluvieuse qui ne permet d'y voir à deux pas devant soi. Par une fâcheuse coïncidence, l'un de nous, mon excellent ami Delacour, s'est écarté à la recherche de l'euphorbe saxatile, l'une des curiosités végétales de ces hauteurs. Faisant porte-voix de nos mains, nous réunissons, en un appel commun, l'effort de nos poitrines. Personne ne répond. La voix se perd dans la masse floconneuse et dans la sourde rumeur de la nuée tourbillonnante. Cherchons donc l'égaré, puisqu'il ne peut nous entendre. Au milieu de l'obscurité de nuages, il est impossible de se voir l'un l'autre à la distance de deux ou trois pas. Et je suis le seul des sept qui connaissent les localités. Pour ne laisser personne à l'abandon, nous nous prenons par la main, et je me mets moi-même en tête de la chaîne. C'est alors, pendant quelques minutes, un véritable jeu de Colin Maillard qui n'aboutit à rien. Delacour, sans doute, lui-même habitué du Ventoux, en voyant venir les nuages, aura profité des dernières éclaircies pour gagner à la hâte l'abri du jas. Gagnons-le nous-mêmes au plus tôt, car déjà l'eau nous ruisselle à l'intérieur des vêtements, tout aussi bien qu'à l'extérieur. Le pantalon de Coutil est collé sur la peau, comme un second épiderme. Une grave difficulté s'élève. Les va et revient, tours et retours de nos recherches, m'ont mis dans l'état d'une personne à qui l'on bande les yeux et que l'on fait, après, pirouetter sur les talons. J'ai perdu toute orientation. Je ne sais plus, absolument plus, de quel côté est le flanc sud. J'interroge l'un, j'interroge l'autre, les avis sont partagés, très douteux. Conclusion, aucun de nous ne saurait affirmer où est le nord, où est le sud. Jamais, non jamais, je n'ai compris la valeur des points cardinaux comme en ce moment-là. Tout autour de nous est l'inconnu de la nuée grise. Sous nos pieds, nous distinguons tout juste la naissance d'une pente d'ici et d'une pente de là. Mais quelle est la bonne? Il faut choisir et se précipiter de confiance. Si par malheur nous descendons la pente nord, nous courons nous fracasser dans les précipices dont la vue seule tantôt nous inspirait l'effroi. Pas un n'en reviendra peut-être. J'eus là quelques minutes de poignante perplexité. « Restons ici, disaient la plupart, attendons la fin de la pluie. » Mauvais conseil, répliquaient les autres, et j'étais du nombre. Mauvais conseil, la pluie peut durer longtemps, et mouillés comme nous le sommes, aux premières fraîcheurs de la nuit, nous gèlerons sur place. Mon digne ami Bernard Verlot, venu tout exprès du Jardin des Plantes de Paris pour faire avec moi l'ascension du Ventoux, montrait un calme imperturbable, s'en remettant à ma prudence pour sortir de ce mauvais pas. Je le tire un peu à l'écart, afin de ne pas augmenter la panique des autres, et lui dévoile mes terribles appréhensions. Un conciliabule est tenu à nous deux. Nous cherchons à suppléer par la boussole de la réflexion l'aiguille aimantée absente. « Quand les nuages sont venus, lui disais-je, c'était bien par le sud. »« C'est parfaitement par le sud. » Et, quoique le vent fût presque insensible, la pluie avait une légère inclinaison, du sud au nord. Mais oui, j'ai constaté cette direction tant que j'ai pu me reconnaître. N'avons-nous pas là de quoi nous guider? Descendons du côté d'où vient la pluie. J'y avais songé, mais des doutes me prennent. Le vent est trop faible pour avoir une direction bien déterminée. C'est peut-être un souffle tournant, comme il s'en produit au sommet de la montagne lorsque les nuages l'enveloppent. Rien ne me dit que la direction première se soit conservée et que le mouvement de l'air n'arrive maintenant du nord. Je partage vos doutes, et alors? Alors, voilà le difficile. Une idée. Si le vent n'a pas tourné, nous devons surtout être mouillés à gauche, puisque la pluie a été reçue de ce côté tant que n'a pas été perdue notre orientation. S'il a tourné, la mouillure doit être à peu près égale de partout. Que l'on se tâte et décidons. Ça y est-il? Ça y est. Et si je me trompe? Vous ne vous tromperez pas. En deux mots, les collègues sont mis au courant de la chose. Chacun se palpe, non au dehors, exploration insuffisante, mais sous le vêtement le plus intime. Et c'est avec un soulagement indicible que j'entends déclarer à l'unanimité le flanc gauche bien plus mouillé que l'autre. Le vent n'a pas tourné. C'est bien. Dirigeons-nous du côté de la pluie. La chaîne se reforme, moi en tête, Verlot à l'arrière-garde pour ne pas laisser de traînard. Avant de se lancer, « Eh bien, dis-je encore une fois à mon ami, risquons-nous l'affaire ?»« Risquez, je vous suis. » Et nous piquons aveuglément une tête dans le redoutable inconnu. 20 enjambées n'étant pas faites, 20 de ces enjambées dont on n'est pas maître sur les fortes pentes, que toute crainte de péril cesse. Sous nos pieds, ce n'est pas le vide de l'abîme, c'est le sol tant désiré, le sol de pierraille, qui croule derrière nous en long ruissellement. Pour nous tous, ce cliquetis, signe de terre ferme, est musique divine. En quelques minutes est atteinte la lisière supérieure des hêtres. Ici, l'obscurité est plus forte encore qu'au sommet de la montagne. Il faut se courber jusqu'à terre pour reconnaître où l'on met les pieds. Comment, au sein de ces ténèbres, trouver le jas, enfoui dans l'épaisseur du bois? Deux plantes, assidue végétation des points hantés par l'homme, le chénopode Bonhenri et l'ortie dioïque, me servent de fil conducteur. De ma main libre, je fauche dans l'air tout en cheminant. À chaque piqûre ressentie, c'est une ortie, c'est un jalon. Verlot, à l'arrière-garde, s'escrime aussi de son mieux et supplée la vue par la cuisante piqûre. Nos compagnons n'ont guère foi en ce mode de recherche. Il parle de continuer la descente, furibonde, de rétrograder, s'il le faut, jusqu'à Bédouin. Plus confiant dans le flair botanique, qu'il possède si bien lui-même, Verlot se joint à moi pour insister dans nos recherches, pour rassurer les plus démoralisés et leur démontrer qu'il est possible, en interrogeant de la main les herbages, d'arriver au gîte malgré l'obscurité. On se rend à nos raisons, et peu après, de touffe d'ortie, la bande arrive au Jat. De la cour y est, ainsi que le guide avec nos bagages, abrités à temps de la pluie. Un feu flambant et des vêtements de rechange ont bientôt ramené l'habituelle gaieté. Un bloc de neige, à portée du vallon voisin, est suspendu dans un sac devant le foyer. Une bouteille reçoit l'eau de fusion. Ce sera notre fontaine pour le repas du soir. Enfin, la nuit se passe sur une couche de feuillage de hêtre qu'ont trituré nos prédécesseurs. Et ils sont nombreux. Qui sait depuis combien d'années n'a pas été renouvelé ce matelas, aujourd'hui devenu terreau? Ceux qui ne peuvent dormir ont pour mission d'entretenir le foyer. Les mains ne manquent pas pour tisonner, car la fumée, sans autre issue qu'un large trou produit par l'écroulement partiel de la voûte, emplit la hutte d'une atmosphère à fumée des harengs. Pour obtenir quelques bouffées respirables, il faut les chercher dans les couches les plus inférieures, le nez presque à terre. On tousse donc, on maugrait, on tisonne, mais vainement essaie-t-on de dormir. Dès 2 heures du matin, tout le monde est sur pied pour gravir le cône terminal et assister au lever du soleil. La pluie a cessé, le ciel est superbe et promet une admirable journée. Pendant l'ascension, quelques-uns éprouvent une sorte de mal au cœur, dont la cause est d'abord la fatigue et en second lieu la raréfaction de l'air. Le baromètre a baissé de 140 mm. L'air que nous respirons est d'un cinquième moins dense et par conséquent d'un cinquième moins riche en oxygène. Dans l'état de bien-être, cette modification de l'air, trop peu considérable, passerait inaperçue, mais venant s'ajouter aux fatigues de la veille et à l'insomnie, elle aggrave notre malaise. On monte donc, avec lenteur, les jarrets brisés, le souffle haletant. De 20 pas en 20 pas, plus d'un est obligé de faire halte. Enfin, nous y voici. On se réfugie dans la rustique chapelle de Sainte-Croix pour reprendre haleine et combattre le froid piquant du matin par une accolade à la gourde dont cette fois on épuise les flancs. Bientôt, le soleil se lève. Jusqu'aux extrêmes limites de l'horizon, le Ventoux projette son ombre triangulaire dont les côtés s'irisent de violet par l'effet des rayons diffractés. Au sud et à l'ouest s'étendent des plaines brumeuses où, lorsque le soleil sera plus haut, nous pourrons distinguer le Rhône ainsi qu'un fil d'argent. Au nord et à l'est s'étale sous nos pieds une couche énorme de nuages, sorte d'océan de blanche ouate d'où émergent comme des îlots de scorie les sommets obscurs des montagnes inférieures. Quelques cimes, avec leurs traînées de glaciers, resplendissent du côté des Alpes. Mais la plante nous réclame. Arrachons-nous à ce magique spectacle. L'époque de notre ascension, en août, était un peu tardive. Pour bien des plantes, la floraison était passée. Voulez-vous faire une herborisation vraiment fructueuse? Soyez ici dans la première quinzaine de juillet. Et surtout, devancez l'apparition des troupeaux sur ces hauteurs. Où le mouton a brouté, vous ne récolteriez que misérable reste. Encore épargné par la dent des troupeaux, le sommet du Ventoux est en juillet un vrai parterre. Sa couche de pierraille est émaillée de fleurs. En mes souvenirs apparaissent, toutes ruisselantes de la rosée du matin, les gracieuses touffes d'androsace vileuse, à fleurs blanches, avec un œil rose tendre, la violette du mont Cenis, dont les grandes corolles bleues s'étalent sur les éclats de calcaire, la valériane salienque, qui associe le suave parfum de ses inflorescences et l'odeur stercoraire de ses racines, la globulaire cordifoliée, formant des tapis compacts d'un vert cru semé de capitules bleus, le myosotis alpestre, dont l'azur rivalise avec celui des cieux, l'ibéris de candole, dont la tige menue porte une tête serrée de fleurettes blanches et plonge en serpentant au milieu des pierrailles, la saxifrage à feuilles opposées et la saxifrage muscoïde, toutes les deux serrées en coussinets sombres, constellées de corolles roses pour la première, de corolles blanches lavées de jaune pour la seconde. Quand le soleil aura plus de force, nous verrons mollement voleter d'une touffe fleurie à l'autre un superbe papillon à ailes blanches, avec quatre taches d'un rouge carmin vif cerclé de noir. C'est le Parnassus Apollo, hôte élégant des solitudes des Alpes, au voisinage des neiges éternelles. Sa chenille vit sur les saxifrages. Bornons là cet aperçu des douces joies qui attendent le naturaliste au sommet du Mont Ventoux, et revenons à l'Ammophile hérissée, blottie en ombre, sous l'abri d'une pierre lorsque la nuée pluvieuse est venue hier nous envelopper.